Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Si tu arraches le cœur du flax, où ira le bellbird? Bienvenue dans ce 8e épisode de la série La Clé des Champs, la série pour se nourrir de la magie du vivant face à des climats de plus en plus extrêmes. De l'autre côté de la planète, ou à l'autre bout de la rue, l'humain observe et s'essaye à faire germer les graines. À chaque épisode, nous découvrons ensemble comment sont cultivées les terres de notre belle bleue. Aujourd'hui, nous faisons route vers la Nouvelle-Zélande, terre du long nuage blanc, pour y rencontrer ses habitants à pattes, à tiges et à jambes, avant de bifurquer dans les champs pour choper quelques trucs et astuces de culture sous ce climat. En bonus, à la fin de cet épisode, je vous propose une recette en sortie de champ pour que nos papilles palpitent autant que nos oreilles. Quelle est donc cette boule poilue au long bec qui vient juste de passer devant nous, avant de finir sa course dans un monticule de fougères aux longues dents? Serait-ce le kiwi, ce fameux emblème national? Nul doute que cette intrigante créature croisera à nouveau notre route à la nuit venue. En attendant, continuons de nous enfoncer dans cette forêt tropicale humide. Ces grandes fougères, dont l'ombre rayonne sur nos pieds, ne sont autres que des kauris. Elles chancellent avec une brise qui nous emmène droit sur d'autres régions du pays. En quelques enjambées, nous avons déjà rencontré plus d'espèces d'oiseaux que nous aurions pu l'imaginer. Rien d'étonnant, avec les 120 espèces qui n'existent nulle part ailleurs que sur cette île. Ah ! Voilà que nous parvenons devant de nouveaux paysages. Plus aride cette fois. La roche sur laquelle nous étions assis est le support d'un tuatara. Figé, notre voisin reptilien nous invite à voyager au temps des dinosaures, dont il serait le plus proche descendant. Le bassin de Mackenzie, au centre du pays, présente de vastes lacs glaciaires et de larges pâturages. Il nous est aisé de naviguer entre moutons et paysages montagneux. Qui aurait cru que ce morceau de terre aurait été un jour occupé par des humains? La colonisation humaine ne date que de quelques centaines d'années, sur cet ancien lopin de terre du Gondawa. Et pour un pays de la surface du Royaume-Uni, on ne compte que 4 millions d'habitants. Un tiers de la surface est uniquement forestière. Weka, Kea, Kapu, Pukeko, Pootukawa, le dauphin Hector, le Korora, la baleine à bec sont autant d'êtres vivants aussi uniques que la langue maori qui les prononce. La culture maori accorde une grande importance à la nature et à l'environnement. Pour ce peuple, vivre sur cette planète implique la responsabilité de savoir vivre avec les êtres vivants qui la composent, tout en n'oubliant pas que les générations futures auront elles aussi besoin de ces écosystèmes pour vivre. Pourtant, dans l'établissement même de ce peuple sur la terre nouvelle-zélandaise, l'impact environnemental fut très grand. On date leur débarquement sur les côtes de Nouvelle-Zélande au XIIIe siècle. Les premières colonies maoris ont dû se nourrir et investir le territoire pour survivre. De même, les nombreuses espèces animales qui les accompagnaient ont également colonisé le territoire, comme le rat et les belettes. Cela a ainsi entraîné la disparition de nombreuses espèces volatiles et de larges sections de forêt. À cette époque, l'introduction d'espèces extérieures qu'avaient ramenées, parfois involontairement, les colons polynésiens, ont largement modifié les écosystèmes de cette île. Initialement très peu investie par les mammifères et prédateurs carnivores. La patate douce constitua plusieurs décennies la base de l'alimentation de ces communautés maoris. Au fur et à mesure que ce peuple s'établissait sur l'île, il se mit à s'intégrer au fonctionnement naturel du site. Ainsi, on retrouve dans les traditions locales l'utilisation des éléments naturellement présents pour se loger et se nourrir. La technique de cuisson du hangi, par exemple, nous donne un aperçu de comment utiliser la géothermie d'une des régions volcaniques pour cuire, enfouie dans le sol, la nourriture de toute une communauté, sans utiliser la combustion à ciel ouvert et en permettant d'amender en carbone de futures zones de culture. Aujourd'hui, le secteur agricole en Nouvelle-Zélande est composé à 80% de la culture de kiwi, vin et pommes. Êtes-vous prêts pour notre truc et astuce en sortie de champ? Traditionnellement, les Maoris mesuraient le temps en fonction des nuits plutôt que des jours. Les cycles nocturnes commençaient avec la nouvelle lune. Chaque nuit d'un mois lunaire était nommée et décrite selon qu'elle était favorable ou défavorable à la pêche, à la guérison ou à la plantation. Ainsi, Matariki est une célébration de la nouvelle année à travers la reconnaissance de la constellation d'étoiles comme Tohu. Et le Rako Nui, la nuit de la pleine lune, était considéré comme un bon moment pour planter, tandis que le Puterengi, en février-mars, était considéré comme le meilleur moment pour récolter. Car rappelons-le, de l'autre côté de la planète, les saisons sont inversées avec les nôtres. Ces pratiques, pour s'orienter avec les étoiles et la lune, se perdent avec les âges, et plusieurs organismes tentent de les remettre sur la scène agricole au nom de Taikiati, ce qui signifie « intendant des ressources terrestres ». En d'autres termes, les pratiques qui prennent soin de la ressource sont impératives. Ces générations futures se devront donc de remplacer Papa Tuanuku, la représentation du monde naturel, avant les gens. Le collectif horticole national maori porte ce discours et mène avec d'autres organismes une démarche de transmission des traditions ancestrales de culture pour préserver le vivant du mieux possible, mettant ainsi un frein à la généralisation d'un système agricole où le pastoralisme prend des formes intensives et où les terres cultivées en monoculture s'étendent à vue d'œil. Notons que le secteur agricole contribue à 50% des émissions brutes de gaz à effet de serre de Nouvelle-Zélande et à environ 91% des émissions de méthane biogénique. Le gouvernement s'est ainsi engagé à atteindre un objectif net zéro pour 2050 et à réduire les émissions de méthane biogénique de 10% d'ici 2030. Parmi les autres engagements de ce pays en faveur du vivant, on peut citer la charte environnementale de Tiaki, que tout visiteur est invité à signer. Le serment moral de Tiaki prend cette forme. Pendant mon voyage en Nouvelle-Zélande, je protégerai la terre, la mer et la nature en étant conscient de mon empreinte écologique et en ne laissant aucune trace de mon passage. Je serai attentif à ma sécurité et respectueux de mon environnement. Je traiterai la culture locale avec un esprit et un cœur ouvert. Premier pays à donner le droit de vote aux femmes en 1893, la Nouvelle-Zélande arbore fièrement son indépendance depuis 1907 et intègre dans ses traditions des rituels où le corps est un outil permettant d'exprimer son être et ses ressentis. Ainsi, le haka maori est plus qu'un chant guerrier, puisqu'il confère à un peuple entier une représentation collective de la vie qui les habite. Tendons la feuille un instant à cette puissante énergie qui semble émerger de l'autre bout du monde.
Oh!
Resté longtemps sans habitants humains, du fait de son éloignement géographique avec le restant du monde, l'île de Nouvelle-Zélande s'est d'abord faite coloniser par des Polynésiens, les futurs Maoris, il y a 800 ans, avant que les Britanniques se targuent de faire de Solopenter une colonie au XVIIe siècle. Au XIXe siècle, les colons britanniques, excentrés du reste du monde et en mal du pays, décidèrent d'innover une de leurs recettes fétiches à base d'oie. Sur l'île de Nouvelle-Zélande, on ne trouve point de ces volatiles. Le British inventif a alors décidé de faire d'un mouton une oie, en utilisant comme subterfuge une marinade de vin rouge, donnant ainsi à la viande de mouton la même couleur que celle de l'oie. L'oie coloniale est ainsi une recette populaire en Nouvelle-Zélande, où on s'évertue à faire d'un simple gigot d'agneau un plat folklorique, où l'os du gigot, habituellement retiré, est ici utilisé pour imiter le coup de l'oie. Une petite farce qui reflète une façon légère de parler d'un passé tumultueux et violent entre peuples maoris et colons britanniques.
Voici l'oie coloniale pour 4 personnes. Réunissez les ingrédients suivants. 600 g de gigot d'agneau et son os, un oignon finement émincé, un bouquet de persil, une poignée de chapelure, un œuf, 50 centilitres de vin rouge, une belle branche de romarin, 3 cuillères à soupe de miel, 500 g de noix décortiquées délicatement, une quinzaine de petites carottes, une vingtaine de petites patates, une belle patate douce, une cuillère à soupe d'huile végétale et des épices qui vous aguichent le plus les papilles. Passons à la préparation. Voulez-vous ? La veille de votre festin, vous allez mettre à mariner goulûment votre agneau avec le vin rouge, le miel, l'huile et les épices dans un grand plat creux. Retournez-le au moins une fois dans la marinade pour colorer les deux côtés de la pièce animale. Le lendemain, votre agneau aura revêtu sa belle robe rouge et vous pourrez dès lors le fourrer avant de l'enfourner. Pour cela, armons-nous d'un oignon finement émincé que nous ferons frétiller à la poêle avant de le mélanger avec chapelure, persil découpé en paillettes, noix broyées et œufs. Cette mixture alléchante, une fois salée, deviendra la farce de notre gigot. Vient alors temps de monter notre supercherie volatile. Déposez la farce au centre de la pièce. Faites passer en douceur la ficelle sous la viande en longueur. Roulez la viande. Ficelez-la fermement et retournez-la fièrement. Il ne vous reste plus qu'à déposer un lit de légumes orangés dans votre plat, en ajoutant carottes, patates douces et petites pommes de terre. Votre four accueille désormais ce qui sera une victuaille de renne au plumage saillant. 3 heures de cuisson plus tard, à petit feu, ce sera votre gosier qui pourra s'en délecter.
Tu as pêché où, baobab, acajou ? Cette joyeuse aventure sur ce bout de terre éloignée prend fin. La semaine prochaine, nous faisons une escapade sur la terre désertique du Thar en Inde. Direction le Rajasthan. Mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.